Sounou Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est de l'un des gestes chirurgicaux, les plus souvent pratiqués dans le monde dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé. La circoncision, l'ablation partielle ou totale du prépuce chez l'enfant pour des motifs religieux, par tradition, en fonction de principes d'hygiène ou d'indications médicales, mais aussi pour des raisons esthétiques. Près du tiers des hommes seraient circoncis dans le monde. Pratique ancestrale, effectuée dans des cadres très différents en fonction des rites, des régions de la planète et bien sûr des raisons qui motivent cette intervention. Alors, tradition ou traitement, la circoncision reste un acte chirurgical qui impose des soins d'hygiène post-opératoire pour éviter les complications, un acte qui touche à l'intime et suscite de nombreux débats sur ses bénéfices en termes de prévention des infections sexuellement transmissibles, débats sur le caractère, selon certains, préjudiciable d'un acte commis sans le consentement du sujet, sur l'impact aussi sur la qualité des relations sexuelles, des sujets que nous aborderons au cours de cette émission. Et on vous donne bien sûr la parole, vos témoignages, vos questions à notre numéro 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de Priorité Santé. Et avec nous aujourd'hui en direct, le professeur Bertin Kouamé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien pédiatre au CHU Diopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous nous faites donc le plaisir d'être avec nous en studio. Vous êtes aussi enseignant-chercheur au département mère-enfant de l'université de Cocody. On retrouve en direct, en duplex de Lyon, le docteur Béatrice Cuzin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chirurgien, urologue, sexologue, andrologue à Lyon. Et on remercie nos confrères de Radio France qui vous accueillent dans leur studio lyonnais. Et en fin d'émission, comme chaque mercredi, les conseils du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France du judo, chronique pour comprendre pourquoi l'activité physique, eh bien, c'est bon pour la santé de chacun, chacune d'entre nous.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Bertin Kouamé, on va commencer de façon très simple, par une petite leçon d'anatomie. En quoi consiste précisément la circoncision ?
Mais la circoncision, c'est un geste chirurgical qui consiste à faire l'ablation totale du prépuce. C'est la partie terminale donc de la verge qui recouvre le gland qu'il faut enlever.
Une fois que cette opération est faite, en général, on va parler de généralité parce qu'après on pourra éventuellement évoquer des complications. Au bout de combien de temps l'homme qui a été, ou le petit garçon qui a été circoncis, recouvre complètement sa santé, n'a plus de douleur, n'a plus de sensations gênantes?
Mais c'est comme tout acte chirurgical. Toute cicatrisation se fait entre 8 et 12 jours. C'est classique, voilà. Donc la circoncision respecte ces règles-là.
Et si, passé ce temps, professeur Kouamé, eh bien, l'enfant, par exemple, se plaint encore, ça veut dire qu'il y a éventuellement un problème.
Voilà. Le problème qui peut se passer, c'est que si les consignes de soins post-opératoires, de soins locaux ne sont pas appliquées comme il le faut, c'est les risques de surinfection. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que moi je peux consigner de suivre ces enfants jusqu'à ce qu'on fasse l'ablation totale des fils pour qu'il y ait une cicatrisation complète. Sinon, le fait d'entraîner une effraction cutanée, c'est-à-dire une effraction de la peau est une barrière qui nous protège contre les infections. Donc cette effraction ouvre la porte aux infections si les soins post-opératoires ne sont pas faits correctement.
On va revenir tout à l'heure dans le détail sur ces soins post-opératoires. On retrouve le docteur Béatrice Cuzin à Lyon. Alors, on parle de cette circoncision, bien sûr, masculine, des hommes, des garçons, des tout petits bébés, justement. À quelle période de la vie, quelle période au pluriel, cette opération est-elle la plus fréquemment pratiquée?
En fait, ça dépend, comme vous l'avez expliqué, des parties du monde. Donc, en fait, vous avez d'une part les circoncisions rituelles, Donc, dans la religion juive, c'est réalisé vers 8 jours. Dans la religion musulmane, c'est réalisé avant l'âge de 5-6 ans le plus souvent. Donc voilà pour les circoncisions rituelles. Et en France, en fait, en dehors des circoncisions rituelles, il faut bien se garder d'indiquer les circoncisions médicales trop tôt. Parce que, en fait, le paraphimosis et les adhérences, c'est quasiment physiologique. Donc, en fait, on a eu des modes où on commençait à décaloter les petits garçons trop tôt, où en fait c'était agressif, où ça créait même des troubles sexuels par la suite. Donc s'il y a une circoncision médicale, il faut la faire tranquillement, quand l'enfant est capable de comprendre ce qui se passe. Et sur les paraphimosis, le traitement à la cortisone marche très bien.
Ça veut dire que ces conseils qui étaient parfois donnés auparavant aux mamans, y compris d'enfants non circoncis, de décaloter, d'essayer d'un petit peu de forcer la peau, c'était quelque chose aujourd'hui qui n'est plus du tout indiqué, docteur?
Alors, il faut plus du tout le faire.
D'accord.
Donc, en fait, si vous voulez, le prépuce, c'est un étui donc qui va maturer avec l'âge de l'enfant, qui est très fin, très fragile. Et si vous forcez sur le prépuce et que vous créez des micro-lésions, ça va se recoller encore plus fort. Donc, en fait, il faut faire la toilette de l'enfant quand il est en âge de la faire. Et on termine la toilette par le décalotage tranquillement, qu'il apprend à faire tout seul. Et effectivement, si à la fin du bain, vers l'âge de 5-6 ans, où il est tout à fait capable de comprendre ce qui se passe, il n'arrive pas à décaloter correctement, là, on commence à penser au paraphimosis, voire au phimosis. Alors, le deuxième cas, bien sûr, c'est quand l'enfant a ce qu'on appelle une baladite, c'est-à-dire que là, le phimosis, même si on n'a touché à rien, est quand même assez accentué, et donc il y a une inflammation du bout de son sexe, et ces baladites, bien sûr, il faut aller voir le pédiatre ou le chirurgien pédiatre, les traiter, et ça peut également déboucher sur une circoncision un peu plus précoce.
Il y a des indications assez différentes, hein, docteur Cuisin, sur la proportion d'hommes circoncis sur la planète, on parle d'un tiers. Est-ce qu'il y a de véritables données épidémiologiques? Est-ce qu'on a une cartographie?
Oui, il y a des cartographies qui sont faites, ne serait-ce que par les organismes comme l'OMS. Et puis, bien sûr, comme il y a des plans de circoncision dans un cadre de prévention du HIV, mais ça, notre confrère africain pourrait mieux en parler que moi, il y a un suivi par rapport à ça aussi. Hein. Pour le simple pays de la France, c'est dans le domaine de l'urologie l'intervention la plus pratiquée.
Alors au niveau géographique, justement, si on regarde cette carte, bien sûr l'Afrique subsaharienne, on va en reparler longuement avec vous, professeur Kwame, le Moyen-Orient, l'Asie, et puis l'Amérique du Nord et le Canada, en dehors de tout processus rituel, 13% des hommes circoncis dans le monde sont américains, ni juifs, ni musulmans. Pourquoi, docteur Cuisin, est-ce que ce geste chirurgical est si banal en Amérique du Nord?
Parce qu'il y a en fait ce qu'on pourrait appeler des lobbies un peu pro-hygiénistes. Et à certains moments, on a dit, voilà, la circoncision, c'est la chose absolument géniale qui va faire que vous aurez plus de problèmes d'hygiène et que vous allez être protégé des maladies sexuellement transmissibles. Donc il y a eu un aspect, à mon avis, un petit peu simplificateur qui a été poussé et sur lequel vraisemblablement on va un petit peu revenir et avoir une discussion un tout petit peu plus nuancée.
Professeur Bertin Kwame, tout à l'heure on disait différents motifs pour ces opérations, pour cette circoncision. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion des hommes circoncis en Côte d'Ivoire et à quel âge?
La proportion en Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas vous la donner, mais on a ce qu'on appelle la prévalence hospitalière, les casuistiques du service de chirurgie pédiatrique CHU de Haut-Pougon. Et comprenez que la circoncision est rituelle dans notre pays. Et donc, nous recevons des enfants à qui on va faire la circoncision, mais parce que les parents m'ont demandé, à l'occasion d'une pathologie mineure telle qu'une hernie, telle qu'une cryptorchidie à faire, donc les pathologies du canal péritono-vaginal à faire, on profite de cette anesthésie pour faire la circoncision. Donc de moins en moins, on voit des parents qui viennent à l'hôpital spontanément que pour la circoncision.
Ça veut dire qu'en temps normal, pour la plupart des Ivoiriens, ça se fait encore au village.
Non, pas au village. Bah, Abidjan, les gens font les circoncisions, je vais dire, mais c'est devenu...
Mais c'est dans un cadre, c'est chez le tradit praticien ou c'est à la maison?
Alors, les tradis praticiens le font à la maison, chez les parents.
Chez les parents.
Voilà. Nous, à l'hôpital, ce qu'on reçoit, on les endort, on fait l'anesthésie générale, on fait la circoncision. Alors, pour revenir à votre question, les statistiques qu'on a au niveau hospitalier, on estime à peu près à 14 circoncisions pour 1000 enfants hospitalisés. C'est pas beaucoup. Vous voyez? Mais c'est tout simplement parce que c'est des enfants que nous recevons en consultation pour une hernie et à l'occasion, lorsque la circoncision n'est pas faite, on profite de l'anesthésie. Les parents disent profiter de l'anesthésie pour pouvoir faire la circoncision.
Voilà. Mais se pose la question de la gestion de la douleur. Ça veut dire que quand c'est fait en dehors du cadre hospitalier, professeur Kwame, comment se passe justement l'endormissement de l'enfant? Est-ce que tout est fait, comme on dit, à vif?
À l'hôpital, non.
À l'hôpital, non, forcément, l'hôpital, on le comprend bien, il y a une anesthésie.
Ah ben voilà, à l'hôpital, non. Et donc justement, la problématique de la circoncision en dehors du cadre purement hospitalier, c'est ça qui est notre souci en tant que chirurgien pédiatre. Vu les complications que nous avons pu observer dans notre pratique quotidienne, des sections de glands, des sténoses du méa, des fistules urétrales, des hémorragies qui exposent à des transfusions avec tous les risques que cela comporte. Donc à l'hôpital, c'est sous anesthésie générale que cette circoncision se fait. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, on va même jusqu'à prévenir la douleur. C'est-à-dire que moi, quand je fais une circoncision, on va mettre l'acide néflunique, le néfluril à l'enfant. Et comme ça, l'enfant se réveille sans douleur et on poursuit l'analgésie post-geste, c'est-à-dire paracétamol, néfluril, jusqu'à ce que l'enfant n'ait pas mal. Mais ça, on l'a pas avec les tradis praticiens et même pas avec les infirmiers qui en font beaucoup.
Docteur Béatrice Cuzin, en France, l'essentiel aujourd'hui des circoncisions se font en milieu hospitalier ou non?
Ah oui, bien sûr. Donc en fait, le fait de faire une circoncision en dehors, bien sûr, des rituels juifs lors du baptême de l'enfant, en principe, maintenant, ça se fait quasiment tout à l'hôpital. Ou en clinique, justement, parce que il y a cette possibilité qui est offerte aux parents. Alors c'est vrai que vous soulevez un point important, parce que la circoncision qu'on pourrait faire dans les conditions qu'évoquent d'autres collègues ivoiriens, c'est proprement inacceptable, parce que ça expose à toutes les complications qui vous a très bien définies, plus le traumatisme de l'enfant.
Avec justement cet impact psychologique, on va y revenir tout à l'heure, mais on va, si vous le voulez bien, tout de suite donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé, car il y a aussi des mamans qui nous appellent. On les passe tout de suite, justement, on leur donne la parole.
Priorité Santé sur RFI.
Et on prend justement Libreville en ligne, le Gabon. C'est Audi qui est avec nous. Bonjour Audi.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Ma préoccupation, en fait, je voudrais bien circoncier mon fils à 10 mois. Je voudrais savoir s'il pourra bien faire ses nuits. Et puis, je voudrais savoir à quoi m'en tenir. Si ça pourra vite cicatriser aussi.
Audi, vous voulez faire circoncire votre fils dans quel cadre?
À l'hôpital. Aller à l'hôpital et le faire circoncire.
Professeur Bertin Kwame, cette question d'une maman, donc, elle a pour projet d'avoir cette opération pour son fils. Interrogation sur la cicatrisation.
Oui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la cicatrisation. Comme je vous ai dit bien avant, la cicatrisation normale se fait pour tout plaie opératoire entre 8 et 12 jours. Donc comprenez que votre enfant, après la circoncision, aura une semaine à 10 jours pour cicatriser. Voilà, il n'y a pas de souci.
Surtout si c'est fait donc dans de bonnes conditions,
dans de bonnes conditions, voilà.
À l'hôpital, avec tous ces soins. Justement, pour décrire ces soins, professeur Kwame, l'opération, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent?
Mais lorsque l'intervention est faite, on a pour habitude de faire ce qu'on appelle la suture, c'est-à-dire
Poser des fils.
Poser des fils, voilà, simplement poser des fils entre la muqueuse du prépuce et le reste de la peau de la verge. Et on applique autour, avec une compresse stérile, la bétadine. Donc en général, lorsque ce pansement est bien fait, ça aide à l'arrêt du saignement, de l'hémostase. Et puis on peut faire le pansement 3-4 jours après, tranquillement, voilà. Et puis après, à partir du 6e jour, on peut enlever un fil sur deux. Au 8e jour, on enlève tous les fils et l'enfant a 10 jours pour totalement cicatriser.
Dans le cas de Audi, son fils a 8 mois, on imagine évidemment qu'il n'est pas encore propre. Oui. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué justement avec la présence d'urine dans ce pansement ?
Justement, c'est l'une des complications c'est l'un des problèmes générés par la circoncision à ces âges-là, parce que effectivement, le fait que l'enfant porte des couches, on a peur que le prépuce s'est retiré avec le gland à nu, soit en contact directement avec les urines et les selles. Mais ça, pour ça, il faut laisser des consignes aux parents pour dire, lorsque l'enfant a une circoncision à la maison, tant qu'on peut, on laisse l'enfant nu sans sa couche. C'est peut-être la nuit qu'il faut lui mettre une couche, voilà.
Tout simplement, laisser le bébé nu pour que, justement, ça se passe dans de meilleures conditions. Voilà ces conseils, Audi. Très bonne journée à vous à Libreville, au Gabon. On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo, pour Matadi, où l'on retrouve Judith. Bonjour, Judith.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Judith.
Voilà, ma préoccupation est la suivante. Dans notre milieu, en ce qui concerne la circoncision, les avis sont partagés. Pour certains, la circoncision doit se passer 8 jours après la naissance. Et d'autres disent qu'il faut attendre un tout petit peu que l'enfant grandisse, donc même quelques années plus tard. Alors je voulais savoir quel est l'âge idéal pour faire une circoncision. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième est la suivante. La circoncision doit se passer dans les meilleures conditions. Et quelles sont les conséquences lorsqu'elle n'a pas été bien faite?
Alors, je vais donner la parole au docteur Béatrice Cusin sur cet âge, on va dire, idéal, hein, comme le dit Judith, de la circoncision. On a parlé justement de cette affaire, justement, de possibilité pour l'enfant de retenir ses urines. Pour vous, c'est ça qui détermine la bonne période pour procéder à cette opération, docteur Cusin ?
Oui, vous avez tout à fait soulevé un vrai problème, parce que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs enfants qui retraitent l'étranger où ils avaient eu leur circoncision, amenés par leur maman, et justement, les soins locaux n'avaient pas été faits correctement, et l'enfant souffrait. Donc, je pense que effectivement, l'âge qui semble approprié, c'est un âge où l'enfant peut participer. Et même si je vis pas en Afrique et j'ai que quelques exemples, bien sûr, que j'ai pu voir en France, je me souviens très bien en fait d'une famille qui arrivait pour demander une circoncision rituelle avec le papa, le grand frère et le petit frère. Et il y avait vraiment un très beau rituel de passage, et on voyait bien que si la circoncision était faite dans ce cadre-là, avec une compréhension, l'enfant allait se construire sur ce rituel avec certainement en fait plus de facilité dans les suites, parce que c'est vrai que chez un tout petit avec ses couches, c'est compliqué. Il faut bien expliquer, comme disaient d'autres collègues, que en fait, à la fois, il faut nettoyer correctement, il ne faut pas non plus mettre trop de bétadine pendant trop longtemps, parce que ça finit par creuser la cicatrice, et laisser l'enfant nu. Donc moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut le faire vers l'âge de 5-6 ans, où l'enfant peut participer, où justement le rite familial peut en fait s'opérer.
Ça veut dire qu'au-delà de l'hygiène strictement, pour parler justement de ces gestes médicaux ou qui sont faits en famille, il y a aussi la verbalisation, expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer.
Voilà, pour moi c'est très important, parce que tous les problèmes qu'on peut entendre, les regrets, les incompréhensions, les souffrances, en fait toutes ces expériences qui peuvent marquer les gens à vie, à mon avis sont en grande partie liées à ça.
Alors, la deuxième question de Judith portait sur les conséquences lorsqu'une cicatrisation est mal réalisée. On peut parler tout simplement de complications. Professeur Bertin Kouamé, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, en consultation, en complications après une circoncision?
Oui. Mon collègue, le professeur Diet, a fait un travail assez remarquable qui est paru dans des revues indexées sur les complications. Et on a trouvé que les complications les plus fréquentes restent ce qu'on appelle les sténoses du méa, c'est-à-dire lorsque la circoncision est faite de façon traditionnelle, l'objet tranchant pour la circoncision va donc entraîner une amputation partielle du bout du gland, et donc au cours de la cicatrisation, l'orifice de sortie des urines va se rétrécir. Ça, c'est ce qu'on appelle la sténose du méa. La deuxième complication qu'il a pu observer, c'est les hémorragies, qui arrivent dans à peu près moins de 10% des cas, parce que la partie basale, c'est-à-dire la partie en bas de la face inférieure du gland, il y a le frein où il y a les vaisseaux qui y passent. Et donc, lorsque la section de ces vaisseaux est faite et qu'on n'arrive pas à circonscrire le saignement, ça saigne. Il y a une perte de sang énorme qui fait que ces enfants nous arrivent dans des tableaux d'anémie et qu'on est obligé de transfuser.
Ce que vous nous expliquez très simplement, c'est que ce n'est pas parce que cette opération, eh bien, elle est faite depuis toujours, hein, c'est une opération qui est faite, on en a même des traces chez les pharaons, etc., que c'est un geste anodin, c'est quelque chose à prendre très au sérieux.
Non, pas du tout anodin, parce qu'il y a une technique, il y a une vraie technique de circoncision qui veut qu'on exclue totalement le gland. Nous, on met deux pinces, c'est-à-dire la pince qui est totalement en aval va exclure totalement le gland, de sorte à s'assurer que la section se fait purement sur le prépuce, pour ne pas aller sectionner le gland. Donc, pour revenir à la question sur les complications, j'ai parlé de la sténose du méa, l'hémorragie. Il y a deux fois, ces praticiens vont jusqu'à à ouvrir l'orifice de sortie des urines, ce qu'on appelle la fistule de l'urètre. Et les complications les plus dramatiques, c'est carrément la section du gland.
C'est épouvantable.
Donc c'est une amputation, ça. Voilà, une amputation du gland.
Et aussi, il peut y avoir des complications, on va dire, post-opératoires dans ce qui est justement le processus de cicatrisation avec des infections.
Oui, en général, c'est un geste simple lorsque les soins post-opératoires sont réalisés dans des conditions idéales, c'est-à-dire l'application de bétadine, faire les soins bien nettoyés pour pas qu'il y ait de surinfection. Voilà.
Mais vous disiez tout à l'heure, les tradipraticiens, eux, j'imagine qu'ils ne préconisent pas l'utilisation de bétadine.
Non.
Ils mettent quoi sur la plaie?
Mais c'est une potion, moi j'ai déjà vu ça, c'est une potion qui, c'est un mélange, c'est une potion qui certainement a un pouvoir hémostatique, c'est-à-dire ça bloque le saignement, qu'ils appliquent directement en contact avec le plan muqueux, c'est-à-dire la muqueuse du prépuce qui reste, c'est la peau qui reste, de sorte à favoriser la cicatrisation. Mais nous, on le constate en péropératoire. Lorsque vous avez fait la circoncision, si vous attendez un peu, il y a un processus normal, chez le sujet normal, de pouvoir entraîner le blocage du saignement. Mais le problème, c'est que vous pouvez tomber sur des enfants qui ont des problèmes d'hémophilie, des problèmes de saignement, pour lesquels vous ne serez pas. Donc, si vous faites la circoncision dans ces conditions, qu'il n'y a pas d'hémostase réalisée, mais l'enfant va continuer à saigner.
Voilà donc pour ces complications, Judith. J'espère qu'on a répondu à vos deux questions. Vous souhaite une excellente journée à Matadi, en République démocratique du Congo. On va rester en RDC, hein, pour prendre la direction du Sud Kivu, où l'on retrouve Chance. Bonjour Chance.
Bonjour madame, bonjour aux invités ainsi qu'aux auditeurs.
On vous écoute Chance.
Oui, ma question était de savoir si quelqu'un qui a déjà atteint un âge avancé, soit 28 ans, et je ne sais pas s'il a encore la chance d'être circoncis.
Alors pourquoi exprimer ou ressentir cette volonté d'être circoncis justement à 28 ans?
Vous comprenez d'abord que chez nous, nous avons les problèmes des dispensaires, soit des centres de santé qui sont un peu éloignés.
Mmh.
Et à l'âge, au bas âge, là nous avons des difficultés parce qu'on nous demande de l'argent. Il arrive à un certain moment qu'une famille est pauvre, elle ne trouve pas cet argent, et on trouve des difficultés, on arrive à un âge avancé, là on a encore la honte d'y aller.
Mais justement, pourquoi se faire opérer si tard? C'est parce qu'il faut justement être circoncis pour se sentir pleinement membre de la communauté, ou c'est lors des relations sexuelles pour être plus à l'aise avec une compagne?
Donc moi, je vais parler d'un cas, d'un cousin qui a ses problèmes. Alors, lui, quand il est avec sa femme d'ascenseur, ils ont eu des problèmes entre eux et qu'il y a des querelles. Et la femme qui essaie d'ingérer, elle dit à son mari que d'ailleurs, tu n'es même pas circoncis. Et vous comprenez que l'homme est directement blessé psychologiquement. Alors, lui aussi qui souhaite être comme les autres hommes, il faut qu'il ne trouve plus ces problèmes-là.
Avec une dimension donc de ressenti, professeur Bertin Kouamé, est-ce que c'est fréquent justement cette stigmatisation des hommes non circoncis dans certaines régions du sous-continent?
Mais lors de la préparation de cette émission, j'ai eu à discuter un petit peu avec un imam qui m'a dit, c'est-à-dire que la circoncision religieuse, ça remonte quand même, l'histoire de la circoncision remonte quand même du temps d'Abraham, c'est-à-dire que c'est Abraham qui était donc le père du monothéisme, Dieu lui a dit, il faut te purifier. En faisant l'acte de circoncision. Donc, cette purification, Mahomet, qui est le prophète de l'islam, a confirmé cela et a institutionnalisé cet acte.
Mais dans ces régions de République démocratique du Congo, il y a relativement peu de personnes musulmanes, donc ça dépasse largement les familles religieuses.
Oui, ça dépasse largement les familles religieuses. Chez nous, par exemple, c'est devenu rituel et culturel. C'est-à-dire que si vous demandez à un parent pourquoi vous voulez faire circoncire votre enfant, il ne pourra pas vous dire les raisons. Il va vous dire non, c'est parce que tout le monde le fait. Mais il y a des communautés pour lesquelles c'est un rituel qui est assez bien systématisé. Il faut faire la circoncision avant le 8e jour, dans la première semaine de vie.
Et docteur Béatrice Cuisin, pour ce qui est de l'autre partie de la question de chance, une opération à 28 ans sur un homme, est-ce que c'est plus compliqué que sur un enfant? Est-ce qu'il y a des précautions particulières?
Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, le fait d'enlever le prépuce. Donc en fait, ça va entraîner que le gland va être découvert en permanence. Et ce gland qui était non kératinisé va se kératiniser. C'est-à-dire que la kératine, c'est ce qui permet, en fait, par les frottements, d'avoir une meilleure résistance. Par contre, il y a une perte de sensibilité. Alors c'est pas parce qu'il y a une perte de sensibilité qu'il y a forcément un différentiel dans la sexualité. Simplement, tout dépend comment va se faire le processus adaptatif. Quelqu'un de 28 ans, sa sexualité, elle s'est faite avec un certain type de sensibilité, puisqu'il a gardé son gland recouvert, et donc ses sensations, elles se sont développées avec ce prépuce. Et d'un seul coup, en fait, il va se retrouver sans son prépuce, avec des sensations différentes, avec un aspect physique et esthétique différent. Donc c'est vrai que si c'est pas intégré, si c'est pas ce qu'on appelle un processus d'adaptation positive, où il est vraiment consentant, ça risque de poser des problèmes, parce qu'il va y avoir des conflits de couple qui vont se développer autour de ça. Alors actuellement, il y a déjà des conflits de couple, et en fait, typiquement, il faudrait que ce couple puisse discuter avec un professionnel de santé pour que les choses soient mises à plat, et que si circoncision il y a, elle soit faite avec un climat apaisé.
Pour parler crûment, sans être trop cru, ça veut dire qu'on ne se fait pas circoncire pour faire plaisir à sa femme.
Absolument.
C'est un choix personnel.
C'est un choix personnel.
Réfléchi.
Voilà,
et
moi j'ai été aussi confrontée à ça dans la pratique en France. Et d'ailleurs, ça avait réactivé des choses très profondes chez le patient qui venait me voir, parce qu'il avait perdu sa mère et il avait l'impression qu'avec la culture de sa mère, il allait la trahir. Et donc, il a fallu essayer de négocier avec le couple sur les racines familiales, sur l'éducation, sur les cultures, pour arriver à trouver en fait un accord. Hein. C'est pas du tout anodin tout ça.
Voilà, chance pour ces réponses. Hein. Question compliquée, important d'en discuter, de réfléchir et de trouver le bon endroit aussi pour se faire opérer. Excellente journée pour vous au Sud Kivu, chance. Et on va aller à Lyon, hein, où se trouve aussi le docteur Béatrice Cuisin. On va aller à Lyon pour y retrouver Louis. Bonjour Louis.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute.
Je vous appelle à propos d'une question qui me taraude l'esprit en tant que chercheur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique le fait que, les personnes circoncises sont moins exposées au VIH, pas moins exposées, attrapent difficilement le VIH-Sida par rapport aux personnes non circoncises.
Alors, professeur Bertin Kouamé, cette question, elle a fait l'objet d'études, hein, d'études très sérieuses, notamment en Afrique du Sud. Ça n'empêche pas les débats sur cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer, justement, sur ce côté, entre guillemets, bien sûr, protecteur de la circoncision pour certaines infections sexuellement transmissibles?
Alors, c'est clair que le prépuce a une muqueuse. Aujourd'hui, les travaux qui ont été faits par l'anatomiste, il y a un néo-zélandais, monsieur Margaret, qui a beaucoup travaillé sur le prépuce. Le prépuce a une partie interne, une partie externe, un frein et puis une base. Et donc, la partie interne sécrète a une sécrétion qu'on appelle le smegma, qui permet la lubrification du gland. Et donc, cette muqueuse, certainement, reste très fragile lors des rapports sexuels, avec possibilité d'effraction de cette muqueuse, avec possibilité de pénétration de ces virus. Mais ce qu'on sait, au niveau des études faites pour les infections urinaires, l'on sait que les bactéries qui sont les plus impliquées dans les infections urinaires, à savoir les Escherichia coli, ces Escherichia coli disposent de protéines particulières adhérentes, qu'on appelle les pili, qui permettent de migrer à contre-courant en se fixant sur l'urétulum, c'est-à-dire la muqueuse de tous les tractus urinaires pour aller infecter et l'urètre et la vessie et les voies urinaires hautes, donner la pyélonéphrite. Donc, on part du principe que lorsque la circoncision est faite, et ça a été déjà montré, il y a un épaississement un épaississement cutané du revêtement du gland qui, l'avantage de prévenir, de réduire un peu les risques d'éjaculation précoce, mais aussi d'être une barrière à cette adhésion virale ou bactérienne. Voilà.
Docteur Béatrice Cuzin, est-ce que c'est une question qu'on vous pose aussi en consultation sur cet aspect, on va dire, prophylactique de la circoncision ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que là encore, la réponse, elle est nuancée. Parce que donc effectivement il y a un processus adaptatif qui se fait à partir du moment où le gland est exposé au frottement, comme on vous l'a expliqué à la fois mon collègue et moi. Ça ne veut pas dire que pour autant il faut faire n'importe quoi, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que des personnes trop rassurées par le rôle protecteur de la circoncision peuvent se retrouver avec une surexposition aux maladies sexuellement transmissibles. Donc en fait, si vous voulez, globalement, on part du principe que le risque relatif d'attraper le VIH est diminué, mais néanmoins, il faut favoriser les comportements non à risque. Et par contre, pour l'éjaculation précoce, là, c'est beaucoup plus discutable, parce que quand on regarde sur le plan épidémiologique les populations de patients atteints d'éjaculation précoce, il y a autant de circoncis que de non-circoncis dans les grosses études. Parce qu'en fait, l'éjaculation précoce, c'est plus le fait d'une hyperexcitation qu'une hypersensibilité. Donc, sur l'éjaculation précoce, c'est tout à fait discuté.
Voilà, Louis, pour ces éléments de réponse, avec beaucoup de littérature sur ce sujet, notamment auprès de l'ONU SIDA, qui a publié, on peut trouver ça sur Internet, des rapports sur ce côté prévention et circoncision. Et sur les questions, justement, sur la santé sexuelle, ce sont des questions aussi assez importantes qui reviennent régulièrement. On va tout de suite donner la parole à Abdel, qui est en ligne du Val d'Oise. Bonjour, Abdel.
Oui, bonjour madame, bonjour Caroline, bonjour à vos professeurs, à vos médecins. Si vous m'excusez, je ne me rappelle plus de leur prénom.
Ils sont bien à l'écoute, en tout cas. On vous écoute, Abdel, docteur Cuzin et professeur Kwame.
Oui, bonjour à eux. Et merci beaucoup de nous répondre. Moi, en fait, quand je voulais vous relater mon histoire. C'est vraiment, j'ai été circoncis à l'âge de 5 ans. Bon, ça a été un traumatisme, puisqu'on ne m'avait pas plus ou moins prévenu. Ça s'est fait à la maison, c'était traditionnel. Et voilà, donc j'en garde un beau souvenir. Et surtout, la question que je voulais poser, pour essayer d'être concis, pour pas prendre trop de temps à l'antenne, c'est, est-ce qu'il se peut qu'ils m'ont trop coupé le prépuce? Parce qu'aujourd'hui, je souffre, lorsque je m'entretiens avec madame, pour rester poli, lorsque j'ai la décharge prostatique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lorsqu'il y a des charges prostatiques, lors de la relation, du va-et-vient, vous savez, les peaux se superposent, j'ai l'impression que ça tire trop sur le gland et que c'est impossible, lorsqu'il y a des charges prostatiques, que je continue. Je suis obligé d'arrêter. Et ma question était de savoir, en plus de savoir si peut-être ils m'ont trop coupé le prépuce, est-ce qu'il y a une réparation? Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de peau? Ou y a-t-il une crème ou une pommade, je ne sais pas, qui me permette de soulager ces douleurs lors de la décharge prostatique.
Je vais donner la parole au docteur Béatrice Cuzin, qui est justement à même de vous répondre. On vous écoute, docteur Cuzin.
Oui, et écoutez, déjà, je vous remercie d'avoir eu le courage de raconter ce témoignage qui est très important. Alors, en fait, il faudrait effectivement consulter pour qu'on puisse aller un tout petit peu plus loin dans le diagnostic. Le fait d'avoir des douleurs à l'éjaculation, ça peut à la fois, bien sûr, tirer un petit peu sur la peau, comme vous le dites, mais je crois également que ça peut être une infection du sperme, même peu importante, à bas bruit. Alors c'est vrai que si vous avez souffert, il faudrait aussi un petit peu détailler ce qui a pu être fait pendant la circoncision. C'est très rare qu'on coupe trop de peau, parce que finalement la peau elle est souple, elle peut s'adapter. Mais par contre il peut y avoir des zones d'hypersensibilité qui restent, des zones traumatisées. Donc là vous avez tout à fait raison, le mieux c'est de commencer par les crèmes.
Consulter docteur Cuisin, quel spécialiste, d'aller voir quel spécialiste pour en parler, pour simplement lui montrer ce qui se passe.
Il faut aller voir un urologue, un collègue urologue.
J'ai cette question, Abdel, justement, vous êtes toujours en ligne avec nous.
Oui.
Vous avez eu le courage de nous parler là à l'antenne. Est-ce que c'est une démarche que vous allez faire, qui est facile, d'aller voir là un urologue, un médecin, pour lui exposer votre problème?
Bah oui, c'est vrai, vous avez raison de poser cette question. J'ai toujours j'ai du mal à faire le pas, c'est vrai. J'ai du mal, je sais pas, juste
d'exposer les choses, de raconter ce qui se passe.
Non, de raconter, c'est pas un problème, de me dévoiler, quoi.
De vous mettre nu devant lui, de vous mettre nu devant lui.
Je pense que je vais essayer de le faire. Parce que si vous voulez, moi, l'appareil est normal. J'ai le frein et tout ça, mais je me suis dit que peut-être que je ne sais pas.
Mais je pense qu'un spécialiste serait mieux à même,
oui,
justement, d'analyser la situation. Docteur Cuisin, c'est quelque chose que vous constatez aussi, cette grande pudeur de certains hommes à venir exposer ainsi leur intimité?
Oui, bien sûr, parce que en fait, des fois, les solutions sont beaucoup plus simples qu'ils peuvent le penser, mais. C'est pas des choses dont on va parler forcément avec les amis. Les femmes ont plus de facilité à parler avec leurs proches. Les hommes verbalisent assez peu. Donc c'est vrai que il faut arriver à faire passer le message que par rapport à ce genre de problème, il faut pas hésiter à aller voir un urologue si possible. Spécialisé plutôt en andrologie, parce que l'andrologie, c'est une sous-spécialité d'urologie. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à pouvoir exprimer ces problèmes. Donc ça, c'est un message que vous nous avez apporté et qui rendra sans doute service à d'autres auditeurs.
Et Abdel, comme vous êtes dans le Val d'Oise, il y a beaucoup, bien sûr, de spécialistes dans cette région parisienne et vous n'aurez aucun mal à trouver un spécialiste. En tout cas, on vous remercie pour ce témoignage et très bonne journée à vous. On a entendu ces questions qui touchent à l'intime, docteur Béatrice Cuisin. Il y a vraiment une dimension à la fois complètement physique, physiologique, et tout ce qui est du ressort de cette sexualité, au-delà du respect de son corps, avec certaines personnes qui disent « je me suis sentie mutilée ». Est-ce que vous entendez ce genre de message, ce genre de plainte?
Oui, bien sûr. Donc en fait, il faut tout faire pour ne pas l'entendre, parce que... Le sujet de la circoncision rituelle est compliqué, et donc en fait c'est un sujet sociétal. Mmh. Et effectivement, comme Abdel l'a très bien expliqué, on lui a rien expliqué du tout. C'est-à-dire qu'on lui a fait ça à la maison, et ça revient très très souvent. C'est-à-dire que le rituel ne peut pas être approprié parce qu'il n'a pas été discuté, il n'a pas été verbalisé.
On change le rituel en geste, hein, et on n'accompagne pas de tout ce verbe qui va permettre de la compréhension et la transmission.
Absolument.
Justement, sur cette question du rituel, professeur Bertin Kouamé, quand c'est fait à la maison, avec un tradipraticien, il y a justement tout cet accompagnement verbal, la famille autour, comment ça se passe?
Non, je ne pense pas du tout, parce que c'est, comme Abdel vient de le dire, c'est pratiqué, c'est décidé par les parents, et ça s'impose à l'enfant. C'est ça le problème. Ça s'impose, l'enfant est obligé de subir une circoncision qu'il n'a pas voulu. Donc voilà, c'est rituel, c'est dans la famille, on décide que la circoncision se fasse et ça s'applique à l'enfant.
Docteur Cuisin, sur cette dimension de l'accompagnement du geste, il y a aussi à l'inverse pas mal de jugements. On entend certaines voix critiques qui dénoncent ce geste, même des associations qui s'en emparent. Pour tout vous dire, quand on va faire des recherches sur Internet, on a même des sites xénophobes qui s'en emparent. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat des gens qui prennent parti finalement pour des choses qui ne les concernent pas directement? Ça, c'est très fréquent, c'est tout à fait normal, mais sur des choses qui sont un petit peu caricaturées.
Alors, en fait, les associations, celles que je connais, souvent, en fait, elles ont été créées par des gens qui ont un message à faire passer, qui ont un message de souffrance. Et donc, en fait, les sites xénophobes, enfin, personnellement, j'en ai pas vu, mais vous avez raison, il doit y en avoir. Mais en tout cas, ça veut dire que on veut essayer de créer un débat. Et je pense que ce débat, il doit avoir lieu. Parce que, dans les religions, ou dans les traditions, moi j'ai discuté avec une amie djiboutienne, elle m'a dit, dans mon ethnie, c'est pas la religion, c'est un rite païen, et c'est un rite de passage. On est un groupe, de nomades qui avions essentiellement des cultures, et pour garder les cultures, il faut être des guerriers. Et donc, le rituel de circoncision, c'était le passage de l'enfant au guerrier. Et d'ailleurs, quand ils rentraient et qu'ils avaient eu leur circoncision, quand ils rentraient au village, ils faisaient des gestes guerriers. Donc, si vous voulez, là, on est dans une société qui est devenue beaucoup plus multiculturelle, où on peut échanger des idées, et il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut être honnête, il faut dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Il faut peut-être être un tout petit peu en recul pour certains groupes, même si le collectif est important, il faut être aussi un tout petit peu dans l'individuel et dans la famille, et savoir quelles sont les valeurs familiales qu'on a envie de passer. Donc je pense qu'en fait, il faut accepter de débattre de ces choses-là, mais dans la sérénité et en s'écoutant.
Justement, sur cette dimension initiatique, professeur Bertin Kouamé, c'est évident aussi, bien sûr, en Afrique, toute cette initiation, mais il doit y avoir le verbe avec, et pas justement condamner ses enfants au silence, et une sorte de mystère, de non-dit qui a un caractère très angoissant.
Mais oui, parce que je sais que si c'est rituel et culturel, c'est sûr que c'est défini par la société. Et comme je l'ai dit, ça s'impose à l'enfant. Et donc, du coup, il n'y a aucune communication. Vous subissez quelque chose qui a été décidé par la société et non pas par vous, sans aucune communication, vous préparant à ce geste. Et donc, je comprends que Abdel a été traumatisé. On lui a jamais dit ce qui va être fait. Est-ce qu'il était d'accord? Il avait 6 ans, il pouvait comprendre. Ne serait-ce que cet accompagnement psychologique et verbal aurait pu l'aider à pouvoir accepter le geste. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, dans la circoncision, c'est pareil. Vous êtes arrivé à l'âge de faire la circoncision. C'est décidé. Ça vous permet de rentrer dans une autre catégorie de sujets, c'est-à-dire passer de l'enfant au sujet adulte garçon. Voilà.
Et surtout quand il y a ce silence, accompagné parfois d'une douleur, douleur au moment du geste, douleur après, lorsque c'est fait sans anesthésie en dehors du cadre hospitalier. Le silence et la douleur, ça n'aide pas vraiment à justement gérer cette intimité.
Oui, du tout. Aujourd'hui, c'est prouvé que le simple fait de l'anxiété avant la circoncision, ça impacte négativement le niveau de la douleur. C'est-à-dire, plus l'enfant est anxieux, plus il y a une exacerbation de la douleur. Donc, même quand on utilise des produits, des sédatifs pour calmer l'enfant, et que le geste est fait en anesthésie locorégionale, sans anesthésie générale, l'enfant, il a cette perception de la douleur. Donc, c'est ceux qui mémorisent là. Donc, Abdel, il y a la souffrance psychologique, mais il y a la souffrance d'intégration de la douleur qu'il a dû subir, parce que c'est sûr que ça a dû être fait à la maison, comme il a dit, et donc il intègre cette douleur-là.
Merci beaucoup, merci à tous les deux, docteur Béatrice Cuisin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, chirurgien, urologue, sexologue, andrologue à Lyon. On remercie encore une fois nos confrères de Radio France d'avoir eu la gentillesse de vous accueillir dans leur studio. Et merci beaucoup à vous, professeur Bertin Kouamé, chirurgien pédiatre au CHU Diopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'être venu nous voir ici dans les studios de Priorité Santé. L'activité sportive et la santé, on en parle maintenant avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et on va parler d'un phénomène dans le sport, dans plusieurs pratiques. On appelle cela la commotion cérébrale. On va commencer par décrire cette commotion cérébrale. Et tout d'abord, est-ce que cela arrive de façon fréquente?
La commotion cérébrale, d'abord, il faut dire que c'est un traumatisme de la tête et du cou. Ça altère le fonctionnement du cerveau de manière transitoire. Et 9 fois sur 10, il n'y a pas de perte de connaissance. Alors, c'est fréquent parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a 300 000 commotions par an chez les sportifs. C'est 20% des commotions en total. Une étude française aussi montre qu'il y a une atteinte cérébrale dans 13% des accidents du sport. Alors donc, dans le monde du sport, l'usage veut que lorsqu'on a un trauma crânien sans perte de connaissance, eh ben c'est considéré comme bénin, un chaos sans perte de connaissance. On dit, bon, souvent au bord du terrain, on entend, bon, il est sonné, mais ça va, quoi.
Jean-Marc Sen, quels sont les sports les plus concernés?
Il y a des sports comme par exemple le rugby qui vient en tête de ligne, la boxe évidemment, tous les sports qui vont toucher en quelque sorte la tête. On le trouve dans beaucoup de sports de combat évidemment où on peut avoir de véritables chutes. Mais le football également peut être concerné par ce trauma, cette commotion cérébrale, donc finalement c'est relativement diffus.
Est-ce que c'est grave, docteur Jean-Marc Sen?
Ben oui, ça peut être grave parce que il faut pas l'oublier, le cerveau c'est un organe essentiel qui commande notre corps. Et donc un traumatisme cérébral, même léger, ne doit pas être négligé. Par exemple, il peut entraîner des séquelles. Et puis on peut dire que c'est comparable à une commotion lors d'un accident de la route. C'est équivalent quelquefois, une voiture lancée à 60-80 km/h qui rentrera en collision avec un mur de briques. Donc on se rend compte que c'est quelque chose assez violent. Et ce qui est important de dire, c'est que lorsque un accidenté de la route a une commotion cérébrale, il va respecter ce repos physique et mental pendant les jours ou les semaines qui seront nécessaires. Alors que le sportif, lui, il est passionné. Et il est plutôt enclin à minimiser ses symptômes et au contraire à reprendre précocement. Et ça a un problème, c'est que ça expose à trois dangers. D'abord, de prolonger les symptômes de la commotion, de faire une deuxième commotion, un double impact, et puis d'avoir un dommage définitif du fait de la répétition de ces commotions, comme des dépressions, des troubles de la mémoire, une altération même des fonctions intellectuelles et des difficultés de communication.
Alors, docteur Sen, vous le disiez tout à l'heure, 9 fois sur 10, pas de perte de connaissance. Alors, comment reconnaître une commotion cérébrale?
Il y a plusieurs signes qui existent et qui peuvent apparaître. Par exemple, évidemment, la perte de connaissance ou la convulsion. Là, on y pense immédiatement. Mais un mal de tête, une fatigue qui persiste, une confusion, la sensation d'être dans le brouillard, d'avoir des troubles de l'équilibre, des troubles de la mémoire même. Et puis, l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, les troubles du sommeil même la diminution de performance, doivent faire penser et sont un cortège de signes qui peuvent apparaître en cas de commotion cérébrale. Et ça va s'aggraver souvent lorsqu'on fait des efforts. Et d'où l'importance absolue du repos physique et intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler sur écran, lire, regarder la télévision. Tout cela retarde évidemment la récupération du cerveau.
Alors on l'a compris, ça peut être sérieux, d'où vraiment des règles d'or. Quelle attitude adopter en cas d'accident, en cas de commotion?
On pourrait dire, Caroline, trois règles d'or. Il faut d'abord, premièrement, arrêter immédiatement la compétition ou l'entraînement. La deuxième règle, c'est de ne pas cacher l'incident. Il faut avertir l'arbitre, le médecin, l'éducateur, bref, l'entourage. Il faut absolument identifier cette commotion. Et puis, la troisième chose, c'est de consulter et d'observer le repos prescrit. Tout sportif victime d'une commotion cérébrale doit consulter son médecin avant toute reprise d'activité et la reprise devra être progressive. Alors vraiment, pour nos auditeurs qui sont sportifs et qui auraient une commotion, il est important qu'ils suivent ces trois règles pour éviter que le ciel leur tombe sur la tête.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. C'est Toussama Kéophile Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, Laurence Snow. Demain, nous allons parler des rêves. Comment les comprendre? Quel est leur impact sur la qualité de notre sommeil et de notre vie éveillée? Vos témoignages, vos questions, racontez-nous vos rêves. Le numéro pour nous joindre, 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.